VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du mardi 9 février 2016. À la une ce soir.
Présidentielle au Tchad, le parti d'Idriss Déby Itno le désigne candidat à sa propre réélection.
On fera également le point sur la campagne électorale au Niger où la tension reste vive entre partisans du pouvoir et de l'opposition.
Nous avions l'impression que nous n'avions jamais vécu une situation de tension vive dans notre pays à la veille d'élection, si ce n'est pas en 2016.
Le mouvement patriotique pour la Centrafrique assure que le second tour du 14 février se déroulera dans le calme, dans la zone qu'il contrôle.
Manifestation anti-Jacob Zuma en Afrique du Sud.
Ici aux États-Unis, le New Hampshire vote aujourd'hui pour ses primaires présidentielles.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Second tour des élections centrafricaines, le mouvement patriotique pour la Centrafrique, MPC, donne des assurances quant au bon déroulement du scrutin du 14 février dans sa zone. Le MPC, qui contrôle la région de Kagabandoro, se dit persuadé que la solution à la crise centrafricaine sortira de ces élections. Félix Sipassi-Zimbro, adjoint à Kagabandoro, Armat Ali, porte-parole du MPC.
Nous sommes favorables aux organisations de cette élection-là, pour qu'on puisse vraiment tourner la page définitivement. Et nous croyons que, nous, au niveau du MPC, que le processus électoral en cours, ça fait partie des solutions de la crise centrafricaine.
Cela veut dire que vous allez assurer la sécurité durant la campagne et puis durant les élections de dimanche 14 février 2016?
Nous les avons toujours fait, dans un premier temps avec le référendum. Continuons de le faire avec les partenaires internationaux qui sont représentés par la MINUSCA ici en présence dans notre zone. Nous sommes en train de collaborer avec eux dans ce sens pour qu'on puisse organiser convenablement les élections dans les normes et dans la tranquillité.
Armat Ali, porte-parole du mouvement patriotique pour la Centrafrique, joint à Kagabandoro.
Tension politique en Ouganda à l'approche de la présidentielle du 18 février. L'ancien chef du renseignement assistera depuis une cellule de prison. Le général David Sejusa, critique acerbe du président Yoweri Museveni, n'a pas obtenu de mise en liberté sous caution. La justice a rejeté sa demande aujourd'hui. Il est poursuivi pour s'être livré à des activités politiques en contradiction avec les règlements de l'armée. Des charges ridicules, estime l'intéressé, et qui croit ne plus faire partie de l'armée.
Assassinat du général Robert Guéhi en Côte d'Ivoire. L'ancien Premier ministre Pascal Affine-Nguesson, chef du parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, a déclaré devant le tribunal militaire d'Abidjan qu'il ignorait les circonstances de la mort de l'ex-chef de la junte, assassiné, souvenez-vous, le 19 septembre 2002. Le procès doit notamment déterminer si le général participait ou non au coup d'État raté lorsqu'il a été tué. Il faut dire que 19 prévenus, dont le général Bruno Dogbo-Blé, ancien commandant de la garde républicaine, comparaissaient depuis le 17 décembre pour assassinat et complicité d'assassinat.
Épidémie d'Ebola, la dernière patiente connue en Sierra Leone, est officiellement guérie. C'est ce qu'annoncent les autorités sanitaires qui ont lancé le compte à rebours de 42 jours, donc deux fois la durée maximale d'incubation du virus, pour proclamer de nouveau la fin de l'épidémie. Une trentaine de personnes qui n'ont pas encore été localisées seraient toutefois susceptibles d'avoir été contaminées en Sierra Leone.
Un député de l'opposition assassiné au Ghana. La police indique que Joseph Boakai Danka a été retrouvé mort après avoir été poignardé à son domicile d'Accra, la capitale. Il avait déjà été poignardé en 2010.
En Afrique du Sud, l'opposition a saisi la Cour constitutionnelle et a manifesté à Johannesburg pour exiger que le président Jacob Zuma rembourse une partie des 20 millions d'euros de fonds publics utilisés pour rénover sa résidence privée de Kandla. Idriss Fall.
Environ 5000 membres de l'Alliance démocratique et des combattants de la liberté économique, le parti du bouillant Julius Malema, ont battu le pavé devant la Cour constitutionnelle à Joburg. Ils ont scandé le même slogan « Rend l'argent » qui retentit au Parlement à chaque apparition du chef de l'État. Et Jacob Zuma doit prononcer jeudi son discours sur l'état de la nation devant le Parlement au Cap. L'année dernière, la session a été perturbée par les partisans de Malema qui ont été brutalement expulsés. Ce scandale a débuté en 2014. La médiatrice de la République, dans son rapport, avait dit que le président Zuma avait indûment bénéficié des deniers publics pour rénover sa résidence privée. Elle avait recommandé qu'il rembourse une partie de l'argent détourné. Depuis, M. Zuma, qui a toujours rejeté l'idée de leur rembourser un seul centime, a fait volte-face il y a une semaine, admettant qu'il pourrait rendre une partie de la somme.
Et puis, ce crime dans un casino kényan à Nairobi, un très, très mauvais perdant a tué des deux responsables de l'établissement. Le Tanzanien n'a pas supporté de voir ses 300 dollars lui filer entre les doigts. Et c'est à coups d'épée qu'il a achevé ses deux victimes. D'après la police kényane, il a ensuite été lynché et tué à coups de pierre par une foule en colère la nuit passée.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, crise en Syrie, le secrétaire d'État américain John Kerry a lancé un nouvel appel à la Russie pour un cessez-le-feu. Cela permettrait éventuellement la tenue, plusieurs fois reportée d'ailleurs, d'un dialogue politique entre Damas et l'opposition syrienne. Michel Joseph nous en dit plus.
S'exprimant à deux jours de la nouvelle réunion, jeudi à Munich, du groupe international de soutien à la Syrie, le chef de la diplomatie américaine a clairement exprimé la position des États-Unis. Nous avons appelé la Russie, et nous l'appellerons encore, à se joindre aux efforts destinés à apporter un cessez-le-feu immédiat et un accès humanitaire complet, a martelé John Kerry devant la presse en recevant au département d'État son homologue égyptien Sameh Shoukry. Pour John Kerry, les opérations militaires de la Syrie à Alep et dans la région nuisent aux efforts visant à organiser des pourparlers sur la Syrie. Nous ne sommes pas aveugles sur ce qui se déroule et nous sommes tout à fait conscients que ce moment est crucial, a ajouté M. Kerry. La feuille de route diplomatique adoptée en novembre 2015 par le groupe international de soutien à la Syrie et par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU réclame notamment l'instauration d'un cessez-le-feu et un accès humanitaire aux villes syriennes assiégées.
Le groupe État islamique est devenu la menace terroriste principale du fait de son califat autoproclamé en Syrie et en Irak et sa capacité croissante à lancer et inspirer des attaques à travers la planète. Déclaration faite par le directeur national du renseignement américain James Clapper dans un rapport annuel. Il reconnaît toutefois que la principale menace ici aux États-Unis vient d'Américains ou de résidents radicalisés. Monsieur Clapper est le coordonnateur des 17 agences américaines de renseignement et le principal conseiller du président Obama dans ce domaine.
La Corée du Nord est à nouveau capable de produire du plutonium dans le complexe nucléaire de Yongbyon, selon le coordonnateur du renseignement américain James Clapper. Les précisions d'Idrissa Seloudia.
M. Clapper a expliqué dans son rapport annuel sur l'évaluation des menaces mondiales publié ce mardi que les États-Unis ont estimé que la Corée du Nord a fait fonctionner son réacteur suffisamment longtemps pour pouvoir commencer à recueillir le plutonium d'ici quelques semaines ou mois. Par ailleurs, le président Barack Obama a assuré son homologue sud-coréenne Park Geun-hye et le premier ministre japonais Shinzo Abe de sa solidarité après le lancement samedi d'une fusée par la Corée du Nord. Dans deux appels téléphoniques distincts, M. Obama a insisté, selon la Maison-Blanche, sur la nécessité d'une réponse internationale forte et unie face aux provocations de Pyongyang. M. Obama a en particulier indiqué à son homologue sud-coréenne que les États-Unis prendraient toutes les mesures nécessaires pour tenir leur engagement inébranlable de défendre la Corée du Sud et ses autres alliés dans la région.
Politique américaine, les électeurs du New Hampshire se rendent aux urnes aujourd'hui pour choisir leur candidat favori dans la course à Maison-Blanche. C'est la première des élections primaires et elle se tient une semaine après les assemblées électorales de l'Iowa, remportées par Ted Cruz chez les Républicains et Hillary Clinton dans le camp démocrate. Si les sondages ont raison, Donald Trump et Bernie Sanders devraient être les gagnants du scrutin dans le New Hampshire. Mais l'Iowa a prouvé, encore une fois, que les sondages n'ont pas toujours raison.
Alors que Hillary Clinton fait face à un formidable challenge de la part du sénateur Bernie Sanders, un autre dossier risque de perturber sa campagne. L'affaire des mails tenus sur son serveur privé lors de son passage à la tête du département d'État. Dans une lettre rendue publique hier soir et datant du 2 février, le conseiller juridique du FBI, James Baker, précise au département d'État que les investigations de la Sûreté fédérale sur les emails de la candidate aux primaires démocrates se poursuivent. Son adversaire, Bernie Sanders, refuse d'exploiter ce dossier, mais c'est l'un des angles d'attaque privilégiés par les adversaires républicains de Mme Clinton.
La faiblesse de l'économie à l'étranger va probablement peser sur la croissance aux États-Unis, constat fait aujourd'hui par la Maison-Blanche, qui prévoit une croissance modérée en 2016 et 2017. L'administration Obama souligne que pour l'instant, l'économie la plus forte et la plus durable du monde. Toutefois, le taux de croissance du PIB ne devrait pas dépasser 2,6%, comme l'a d'ailleurs prévu le FMI.
Et cette économie, c'est bien sûr les États-Unis. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
L'Agence internationale de l'énergie a battu en brèche mardi les espoirs d'une remontée des prix du pétrole à court terme, confirmant que le monde devrait rester submergé d'or noir face à une demande fragile. Le bras énergétique de l'OCDE a démonté un par un les facteurs d'optimisme qui avaient permis au cours du pétrole de reprendre un peu de couleur ces derniers jours et de repasser au-dessus de la barre de 30 $ le baril après leur chute autour de 27 $ en janvier, point le plus bas en près de 13 ans. Le président des États-Unis a promulgué le 8 février une loi adoptée la semaine dernière par le Congrès qui vise à inciter le secteur privé à investir en Afrique afin de fournir l'électricité à 60 millions de foyers dans la région. La loi vise à améliorer le plan Power Africa, auquel les États-Unis contribuent à hauteur de 7 milliards de dollars et que Barack Obama a promu lors de sa visite au Kenya en juillet dernier. La plupart des financements de cette initiative, côté américain, doivent venir de l'institution américaine publique Export-Import Bank. Le groupe pharmaceutique français Sanofi devrait être en mesure d'initier un essai clinique sur le virus Zika dans un an, mais le développement d'un vaccin ne pourrait pas se faire avant 3 ans, a affirmé mardi son directeur général Olivier Brandicourt.
Voilà pour la Minute Éco. Merci John.
Dans l'actualité sportive, on revient ce soir avec Bagassi Koura sur la victoire des Léopards de la RDC en championnat d'Afrique des Nations. Les Léopards décorés ce mardi à Kinshasa.
Oui, le président congolais Joseph Kabila leur a même offert, Chérubin, une quarantaine de véhicules tout-terrain haut de gamme après leur victoire au championnat d'Afrique des Nations. Monsieur Kabila a remis symboliquement les clés de ses véhicules au capitaine des Léopards, Joël Kimouaki, à leur entraîneur et sélectionneur Florent Ibenge, ainsi qu'au président de la FECAFO, la Fédération congolaise de football, FECOFA plutôt, Association, Constant Omari, et au ministre des Sports, Denis Kabayi. Il s'agit, chez Rubin, de 4x4 Toyota Prado TXL au 23 juin, mais aussi aux 11 membres d'encadrement, selon une source dans le milieu de la distribution automobile contactée par l'AFP. La valeur unitaire d'un tel véhicule à Kinshasa est d'environ 55 000 $ hors taxes.
Jeux olympiques 2016, le Kenya pourrait ne pas aller à Rio de Janeiro à cause du virus Zika.
Oui, tout ça à cause de Zika. Si Zika continue de s'aggraver donc au Brésil, le Kenya pourrait renoncer à participer aux Jeux olympiques de Rio. Ces Jeux sont prévus du 5 au 21 août.
Démission du président du Dynamo Zagreb.
Oui, le controversé président exécutif du Dynamo, Zdravko Mamić, est soupçonné par le parquet local du détournement de plusieurs millions d'euros. Il a donc démissionné de son poste ce mardi à la suite de l'annonce de l'ouverture d'une nouvelle enquête.
Et football toujours, Cristiano Ronaldo veut rester 2 ans de plus au Real Madrid.
Oui, l'attaquant portugais du Real a affirmé lundi qu'il resterait encore 2 ans dans le club de la capitale espagnole, puis, c'est son expression, il verra la situation pour la suite, coupant court aux rumeurs de transfert.
Merci Bagassi Koura pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie en ce 9 février, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Place au dossier du jour. Alors Morgane, notre première escale ce soir est à Niamey.
Et 15 jours avant l'élection présidentielle au Niger, la tension augmente entre l'actuel président Mahamadou Issoufou et ses principaux opposants. Ce mardi, des affrontements ont eu lieu entre les partisans de l'opposition et la police. Mali Seguel a joint Ali Idrissa, coordinateur de l'OPEL, l'Observatoire du processus électoral au Niger.
La campagne électorale se passe très très difficilement et dans une extrême tension. Nous constatons l'arrestation de certains candidats aux élections législatives dans cette période de campagne et aussi le discours. Le ton entre les différents camps est de plus en plus très élevé et nous avions l'impression que nous n'avions jamais vécu une situation de tension vive dans notre pays à la veille d'élection, si ce n'est pas en 2016. C'est comme si ce n'est pas les mêmes Nigériens qui avaient fait autant de processus électoral. C'est vraiment ce qui inquiète, ce qui amène nous, en tant qu'acteurs de la société civile, à appeler les uns les autres au calme et aussi au gouvernement de cesser les arrestations et les intimidations des militants de l'opposition. Parce que du fait déjà que le processus est lancé, pour nous, il est hors de question de continuer à assister à des arrestations de candidats de l'opposition. Et aussi de cesser l'usage des moyens de l'État. Aujourd'hui, tout le monde constate les équilibres criables qu'il y a entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont à l'opposition.
Ama Amadou, le principal concurrent, est actuellement en prison, mais ses partisans font campagne pour lui. Comment cela se passe-t-il ?
Pour nous, c'est sûr qu'Ama Amadou, en tant que candidat présidentiel, doit bénéficier des mêmes égards que les autres candidats. Pour nous, Ama Amadou doit avoir accès aux médias d'État. Pour nous, il doit pouvoir battre campagne. Mais on constate que tel n'est pas le cas. Mais sur le terrain, on voit bien les couleurs de son parti. On voit bien ses partisans qui font le tour du pays. Et bon, c'est ce que nous regrettons. On constate aussi que même parmi ses partisans et aussi les autres candidats, on continue à arrêter leur lieutenant. On continue surtout dans certains dans leur fief. Et c'est ce que nous regrettons. Donc ça continue les arrestations, ça continue les intimidations.
Est-ce qu'il faut s'attendre à des violences ?
Cette fois-ci, tout est à craindre. On a l'impression que c'est comme si c'est la dernière élection que nous allions organiser. Nous appelions la communauté internationale à pouvoir prévenir cette crise. Nous ne voulions pas de tasse bleue au Niger, mais nous voulions que les uns et les autres s'engagent pour que le Niger puisse organiser des élections apaisées. Et tel est notre appel vis-à-vis de la communauté internationale.
Ali Idrissa, coordinateur de l'OPEL, l'Observatoire du processus électoral au Niger.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Cameroun, les partisans de Paul Biya multiplient les appels implorant le président, âgé de 83 ans et au pouvoir depuis 3 décennies, à se représenter. Certains demandent même qu'il organise des élections anticipées. Un air de déjà-vu, condamné par l'opposition, qui estime que chaque fois que M. Biya veut organiser des élections, il ordonne à ses partisans d'entonner le chant des sirènes pour donner l'impression qu'il est aimé de son peuple. Le reportage de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka, présenté par Lionel Gaïma.
Des milliers de personnes ont été convoyées à Monatélé, près de Yaoundé. Des ministres, riches hommes d'affaires ou membres influents du parti au pouvoir ont rivalisé d'ardeur et des moyens pour amener le plus de monde. Pour Henri Eyebéa ici, ministre de l'Agriculture, il faut montrer publiquement son soutien au président camerounais Paul Biya. Nous appelons le chef de l'État à organiser l'élection présidentielle cette année 2016. Pour ce faire, il doit user de ses pouvoirs constitutionnels pour modifier la loi fondamentale pour que nous organisions une élection anticipée. Le professeur Jacques Famendongo, un porte-parole du parti de Biya, se dit agréablement surpris par cette mobilisation spontanée.
Il s'agit d'une action qui émane de la base. Et la base n'est pas manipulée. La base veut que la personne qui garantit le progrès économique, social et culturel du Cameroun fait à l'appui, chiffre à l'appui, puisse se représenter. C'est la base qui demande. Ce n'est pas l'état-major du parti. Ce n'est pas le comité central qui a demandé. Ce sont les militantes et les militants de la base, des villages, des quartiers, des arrondissements, ainsi de suite, qui demandent que le président Paul Biya se représente.
Fondgua Stanley, militant de base du parti au pouvoir, n'est pas de cet avis, disant n'avoir pas été consulté. Les appels ne signifient pas que les gens parlent. Il n'y a que quelques Camerounais avides qui veulent se faire entendre pour conserver leur poste et cela n'a aucun sens pour moi. Si vous allez au sein du parti, vous vous rendez compte que personne ne soutient sa candidature. Il veut seulement rester au pouvoir. Dantzi Elvis, président de la jeunesse de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, parti d'opposition, lui est convaincu que c'est Paul Biya qui a initié ou incité ces appels pour se faire réélire. Ça devrait être le parti qui lance de tels appels et non des individus. C'est un jeu psychologique qui n'est vraiment pas nécessaire, car nous savons tous que ce n'est pas seulement une volonté de rester au pouvoir, c'est aussi sa performance, son âge et tout. Il y a un besoin de changement et les Camerounais ont soif de changement. Premier ministre de 1975 à 82, Paul Biya est devenu chef de l'État après la démission d'Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun. En 2008, M. Biya a fait modifier la constitution pour éliminer la limite des mandats présidentiels.
Washington Forum cette semaine, le chômage chez les jeunes en Afrique. Les diplômés affichent un taux de chômage supérieur à celui des jeunes qui ne sont pas allés à l'école. De la Tunisie au Tchad, ce manque d'emploi est-il une bombe à retardement pour la société? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
En République démocratique du Congo, la circulation routière est devenue un danger pour les habitants de Lubumbashi, avec entre 10 et 25 accidents par jour, selon les statistiques de la Commission nationale pour la prévention et la sécurité routière. Le manque de formation des conducteurs serait la principale cause. De Lubumbashi, correspondance de Narval Mabila.
Rouler à Lubumbashi est devenu un danger quasi permanent pour les Louchois, car les chiffres des accidents de la circulation routière sont en progression jour après jour et mois après mois, et cela entraîne des nombres de blessés hospitalisés et de morts, 10 à 15 cas d'accidents par jour, et les constats de la Commission nationale pour la prévention et la sécurité routière qui propose une solution, la formation obligatoire des chauffeurs pour 3 jours, moyennant $30. Le plus concerné sont les chauffeurs de taxi et taxibus, Richard Kabeya, de la CNPR s'explique.
Il y a eu beaucoup d'accidents de circulation sur la ville de Lubumbashi. Si par jour à Lubumbashi nous devons enregistrer plus de 20 à 25 cas d'accidents, et il y a même des accidents mortels chaque jour, et les mois nous arrivons à atteindre, nous allons au-delà de 140-150 cas d'accidents, et il y a plus de 70 personnes qui ont perdu leur vie suite aux accidents de circulation. Vous voyez vous-même que ça ne va pas. C'est là à ce que nous puissions revoir le comportement des chauffeurs. C'est à remonter un peu leur niveau. C'est vraiment malheureux de constater des choses comme ça. Quand les routes ont maintenant transformé en abattoir, on ne va pas dire qu'il y a seulement les bandits qui tuent les gens partout, par-ci, par-là, dire qu'il y a l'insécurité et laisser la route. On constate que la route met la population vraiment en insécurité.
Sur terrain, depuis un temps, la police de circulation routière resserre les taux sous les usagers de la route avec les contrôles de permis de conduire biométriques nouvellement lancés, alors que sa vente et sa délivrance connaît de sérieuses difficultés suite à plusieurs circuits parallèles, explication de Kaba, chauffeur de taxi.
C'est difficile pour nous, parce que nous, d'abord, on a besoin d'avoir ces permis-là biométriques. Alors, on va aller payer où? Il faut payer combien pour en avoir ça? On ne sait pas où on va aller payer. On ne sait pas, et puis normal, c'est combien? On ne sait pas. On n'a pas même des précisions à propos des prix normaux de ces permis-là biométriques. Formation des prix de Lubumbashi. On nous dit 110 000 francs, $100, tu peux en avoir ça dans 2 semaines. Quand on nous arrête, on arrête d'avoir les chauffeurs. $50 pour l'amende des chauffeurs et puis l'amende des véhicules qui suit.
Officiellement et officieusement, c'est dans le rouage de la division de transport qu'on trouve et délivre les permis de conduire biométriques. Antoine Moutombo, chargé de l'administration à la Commission nationale
national de délivrance des permis de conduire nous explique la démarche officielle à suivre.
S'ils viennent se renseigner ici, ils seront renseignés. Donc, ils paient que le formulaire, c'est ce qui se paye ici. Le reste, vous allez à la banque, on vous dit déjà votre catégorie, c'est catégorie telle. Vous allez payer, si c'est la catégorie A et B, 35 000. Si c'est catégorie D, 55, c'est ça. Et si c'est catégorie, la dernière catégorie, c'est 65. Peut-être pour un permis international, là, on arrive, je crois, non, sinon le permis national, il n'y a pas de 120. Les gens doivent comprendre. Au lieu de venir ici, ils cherchent des intermédiaires. Pour quelle raison?
Pour le louchois, le flou dans la vente et la délivrance des permis de conduire biométriques persiste. À Lubumbashi, les chauffeurs commettent des accidents aujourd'hui et demain, ils changent de véhicule. Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Parlons maintenant de la présidentielle 2016 aux États-Unis. Les candidats républicains et démocrates sont dans l'État du New Hampshire, un petit État du nord-est américain qui tient ses élections primaires aujourd'hui. Un scrutin qui pourrait s'avérer décisif pour la course dans les deux camps. Pour faire le point, Timothée Donangma a joint sur place notre envoyé spécial Thomas Camilindi.
Dans son bureau de vote, dans une école secondaire d'un petit chef-lieu qui s'appelle Londonderry, c'est à une vingtaine de kilomètres de Manchester, eh bien les gens sont nombreux, beaucoup de jeunes aussi, et c'est une population homogène, il n'y a pas de diversité qu'on voit, mais les gens sont enthousiastes, sont vraiment venus nombreux, c'est ce qu'on peut dire.
Il y a eu de la neige hier, est-ce que cela a affecté l'enthousiasme là-bas?
Non, pas du tout. Ça n'a jamais entamé l'enthousiasme des gens. Il y a même dehors des gens qui restent là avec des pancartes, avec les noms de leurs candidats préférés, Hillary, Ted Cruz, Trump, etc. Donc, ils sont vraiment très, très enthousiastes. Le froid ne leur fait pas peur. Le froid, ni la neige, qui y est toujours immense, ne leur font pas peur.
Chez les démocrates, c'est bien évidemment Bernie Sanders qui est en tête et Hillary Clinton qui essaie de le rattraper dans les sondages.
Tout à fait, tout à fait. Mais c'est encore tôt pour savoir comment ça va se passer parce que justement, le vote se passe à bulletin secret. Les gens viennent, font la queue à une table où il y a les lettres qui sont leurs initiales. Et donc, on regarde leur carte d'identité et on leur donne un bulletin de vote et puis ils vont dans l'isoloir, remplissent leur fiche et puis remettent leur bulletin de vote dans une urne. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est encore difficile de savoir comment ça va se passer.
La course chez les Républicains, c'est Donald Trump en tête et l'ensemble du groupe qui essaie de se positionner dans le New Hampshire.
Tout à fait. Mais là aussi, il peut y avoir des surprises, comme il y en a eu il y a environ 10 jours dans l'Iowa. Donc là aussi, c'est l'expectative. On est là pour voir ce qui va se passer. Les bureaux de vote ici ferment à 8 heures du soir.
Voilà, c'était Thomas Camilindi, envoyé spécial dans le New Hampshire pour la primaire de ce 9 février.
Salut les amis, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition, à la mise en onde Michel Joseph, présentation Morgane Diriek et Chérubin Dorsil.
On remercie à la console Linus Remkes. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos et vidéos, posez des questions et n'oubliez surtout pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM. Top Congo, Kinshasa. Nostalgie FM, Ouagadougou. 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.